Je vais vous lire la première partie du texte du jour qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 17. Je vais commencer par le 6e verset. Jésus prie pour ses disciples. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Je lis dans la version Le Semeur. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié. Ils l'ont reçu. Aussi ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu d'auprès de toi, et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Je te prie pour eux. Je ne prie pas pour le reste des hommes, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils t'appartiennent. Car tout ce qui est à moi t'appartient, comme tout ce qui est à toi m'appartient. Ma gloire rayonne en eux. Bientôt, je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi. Mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Aussi longtemps que je t'ai parmi eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton amour. Je m'excuse, j'ai perdu. Je reprends, aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les gardais par le pouvoir de ton nom. Car mon nom que, ce nom que tu m'as donné, j'ai l'impression que je dois aller voir un ophtalmo, pour changer des lunettes. Ce nom que tu m'as donné, je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait le se perdre pour que s'accomplisse l'Écriture. À présent, je retourne auprès de toi et j'ai dit tout cela parce que je suis encore dans le monde, pour qu'ils possèdent, eux, cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne lui appartiennent pas, comme moi-même je ne lui appartiens pas. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Consacre-les par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie, et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité.
Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux.
Bonjour. Merci Tony, merci Jean-Marc pour la lecture. Je voudrais d'abord vous remercier pour vos prières. J'étais au Congo. J'ai vraiment senti que vous m'avez soutenu. Les ministères que nous sommes en train de faire là-bas avancent très bien, grâce à vous. Et je continue de prier que Dieu puisse vous bénir. Malheureusement, aujourd'hui, nous ne pouvons pas voir les images que j'ai amenées du Congo. On pourra peut-être voir ça prochainement, parce que ce n'est pas prévu pour aujourd'hui. Nous sommes un peu dans l'ambiance de la Coupe du Monde. Hier, le Ghana a joué contre qui? Contre les États-Unis. Et puis, le Ghana a gagné. Donc, la Coupe du Monde, c'est un événement historique. Elle crée une folie de joie chez les uns, de frustration et de division chez les autres, selon les résultats, bien sûr. Alors, je vais vous lire une histoire. C'est une histoire vraie qui s'est passée autour de la Coupe du Monde. Il y a eu du chaos à Busia, en Ouganda, car les gens ont abandonné l'enterrement pour suivre les matchs entre le Ghana et la Serbie. L'incident a eu lieu à Busia, un village en Ouganda, pendant les funérailles d'un ouvrier de la place. La date de cet enterrement est très mal tombée pour les fans de match. Toutefois, ils ont quand même tenu à assister aux funérailles, espérant que la cérémonie prendra fin avant le début du match. Contrairement à l'attente des participants, le pasteur, bien qu'en courant, n'a pas voulu céder à la pression de l'événement du jour. Il est resté dans les normes habituelles de la cérémonie, ce qui a fait monter la tension chez les fans, y compris les frères du défunt, qui accusaient le pasteur de les faire manquer les matchs. Malgré leurs irritations, ils ont quand même patienté jusqu'à la fin de la prédication. Mais quand le pasteur a voulu prolonger la cérémonie par un moment de prière, ces gens ne pouvaient plus se contenir. Pendant que le pasteur était en train de prier, les yeux fermés bien sûr, les frères du défunt et ses amis, frustrés, ont discrètement pris le corps pour l'amener au cimetière. Les autres participants en ont profité pour s'échapper. En ouvrant les yeux, le pasteur était choqué de voir que le corps a disparu et que certaines choses sont restées vides. Il a poursuivi ces jeunes gens jusqu'au cimetière pour les empêcher de faire descendre le corps dans la tombe et ce fut du chaos. À la fin, beaucoup ont abandonné l'enterrement pour aller suivre les matchs. Et le pasteur s'est retrouvé seulement avec les parents du défunt et quelques poignées de membres de sa communauté. Manque de collaboration a créé la division dans la communauté. Et le pasteur et les participants, chacun tenait à ce qui lui est le plus important. Notre thème d'aujourd'hui, c'est l'unité des croyants. L'unité des croyants est l'objet principal de la prière de Jésus à son Père. C'est la prière que nous venons de lire tout à l'heure. C'est une longue prière. Si je dois intituler cette prière dans les termes d'aujourd'hui, je dirais que c'est un rapport de fin de mission. Après chaque mission, il y a un rapport à rédiger normalement à celui qui l'a confié. Et si nous voyons que Jésus arrive à la fin de sa mission. Et il donne un rapport, il fait un rapport à son Père. Si vous lisez toute la prière, vous allez constater que c'est un rapport bien structuré. Parce qu'on y trouve tous les éléments du rapport. Il y a l'objet de la mission, il y a la réalisation de la mission, le résultat de la mission, et même les recommandations pour la suite de la mission. Dans l'objet de la mission, Jésus fait d'abord un rappel de l'objet de sa mission à son Père. C'est comme s'il disait, « Père, voilà ce que tu m'as demandé d'aller faire. Tu m'as demandé d'aller accorder la vie éternelle aux croyants. Tu m'as demandé de faire connaître le Dieu unique et véritable, mais aussi son envoyé, Jésus-Christ. Tu m'as demandé de faire connaître la gloire de Dieu sur terre. Cette partie, on ne l'a pas lue. C'est à partir du premier verset jusqu'au 5. Le texte était très long, c'est pourquoi on ne l'a pas lu. Alors, il présente d'abord devant son père ce qu'il est venu faire. Et après, il passe à la réalisation. Voilà ce que tu m'as demandé de faire. Et voilà ce que moi j'ai fait. Qu'est-ce qu'il a fait de la mission que le père lui a confiée? Il s'exprime à ces termes. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Par les actes et les paroles de Jésus, les disciples ont pu découvrir la nature et les caractères de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a encore fait? J'ai transmis fidèlement le message que tu m'as confié. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Alors, quel en est le résultat? Tu m'as donné une mission, je l'ai fait, et voici le résultat. Ils ont reçu la parole et ils ont crié que tu m'as envoyé. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Parmi les résultats, ils ont reconnu avec certitude que je suis venu d'auprès de toi. Ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Je suis glorifié en eux. Ils ont gardé ta parole. C'est une mission réussie. Mais alors, comme tout rapport, un rapport de mission se termine le plus souvent par des recommandations. Les recommandations sont très importantes dans un rapport parce qu'elles présentent les risques du projet. Et si on les néglige, c'est le projet qui est en risque. Alors, Jésus recommande à son Père l'unité des croyants. Il dit, voilà, j'ai fait, j'ai été avec ces gens, ils m'ont écouté, mais c'est ce que je vis dans le monde. Père, garde-les en ton nom. Parce que Jésus a vu que le monde était hostile aux croyants. Et Jésus a vu aussi que sans unité, la suite de son œuvre est en danger, serait vraiment en danger. Et il fait cette recommandation à Dieu parce qu'il sait que lui ne sera plus là. Et il est dit, quand j'étais là, c'est moi qui l'ai gardé. Et maintenant que je vais quitter, je m'en vais vers toi. Père, ces gens vont rester seuls. Et si tu ne les protèges pas, il y aura du danger pour la suite de cette œuvre que je suis venu accomplir. Alors, il est revenu plus de 5 fois sur ce sujet en ces termes. Père Saint, garde-les en ton nom, afin qu'ils soient un comme nous. Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Il continue, que aussi soient un à nous. Qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi à moi. Qu'ils soient parfaitement un. Cette insistance de Jésus sur l'unité des croyants, dans sa recommandation, montre que la continuation de son œuvre en dépend. Et que sans unité, les croyants seront affaiblis devant l'hostilité du monde. Raison pour laquelle il a enfin l'objet de sa prière. Les questions qui se posent aujourd'hui sont les suivantes. Comment vivre dans l'unité quand nous sommes si différents? Est-il possible de garder l'unité dans la diversité? Ça a été déjà très difficile dans le jardin d'Éden. Quand Adam était seul, tout allait bien. Mais dès que Dieu a apporté Ève auprès d'une personne différente, même si elle est la chair de sa chair, mais elle était différente. Et il y a eu des problèmes. Quand ils ont commencé à avoir les enfants, chaque enfant annonçait sa couleur. Ils étaient aussi différents. Tous les enfants qui nous arrivent sont différents. Et c'est difficile d'être unis quand on est différent. C'est pourquoi Jésus aussi a compris qu'il est possible, mais difficile, de vivre dans l'unité. Et c'est surtout pour cette raison qu'il devait vraiment prier pour que les pères s'en occupent. Nous devons savoir que l'unité et la diversité sont tous voulus de Dieu. La diversité apporte une coloration à l'œuvre divine. Mais tout doit se passer dans l'unité. Il fait mention plusieurs fois de son unité avec les pères. C'est pour dire que leur unité doit servir de modèle aux croyants. Alors, revenons encore à cette question. Est-il possible de vivre dans l'unité quand nous sommes si différents? Parlons de la communauté. C'est encore plus difficile. Pourquoi? Parce que d'abord, nous ne parlons pas la même langue. Et même si nous parlons la même langue, on ne réfléchit pas de la même manière. Nous n'avons pas la même culture. Et même si nous avions la même culture, chacun l'applique de sa façon. Nous venons des quatre coins de l'horizon. Nous sommes des blancs et des noirs et des jaunes. Comment vivre dans l'unité avec cette diversité? Mais Jésus dit qu'il est possible. Difficile, mais possible. Alors, que faut-il pour que nous puissions vivre dans l'unité? Et je pense que le modèle, comme il a insisté plusieurs fois, comme nous, c'est l'unité du Père, Fils et Saint-Esprit qui est le modèle que nous devons suivre pour vivre dans l'unité. Que tous soient un, comme tu es en moi et moi en eux. L'unité des croyants est une prolongation de l'unité divine. Et elle a pour fondement l'unité du Père et du Fils. Donc l'unité n'est possible que si Jésus vit en nous. Sans cela, c'est impossible qu'il soit en nous, comme il a dit. C'est alors que nous ferons la prolongation de cette unité qui est déjà dans le Père et le Fils. L'unité est possible si nous avons l'amour de Dieu en nous. L'unité des croyants découle de l'amour de Dieu en nous. Cet amour est visible dans les relations fraternelles. Ce n'est pas visible, c'est que ça doit être visible dans les relations fraternelles. L'unité est possible s'il y a l'humilité parmi les croyants. Jésus s'est fait homme, lui qui est Dieu, afin que nous soyons un avec lui. Il s'est humilié, il est Dieu, il pouvait dire non. Je ne peux pas devenir homme, je suis Dieu. Mais il a accepté de devenir homme, pour que nous soyons un en eux, et pour qu'il soit un avec son Père. Et c'est cet exemple de l'unité qu'il nous demande. L'unité est possible s'il y a de la place pour tous. Revenons encore à l'unité divine. Nous avons le Dieu le Père, Dieu le Fils, et le Saint-Esprit. Si nous voyons l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, c'est Dieu le Père qui était sur scène. On n'a pas beaucoup parlé de Jésus. On n'a pas beaucoup parlé du Saint-Esprit. Mais ils étaient là. Je dirais qu'ils étaient derrière la scène. Mais le Père était là. C'est lui qui parlait avec les prophètes. C'est lui qui apparaissait. C'est lui qui était là. Nous arrivons à l'époque de Jésus. Là, c'est Jésus qui monte sur scène. Le Père et le Saint-Esprit, ils passent derrière la scène. Parce que c'est Jésus qui faisait tout. Mais il n'était pas seul. Il était toujours avec le Père, il était toujours avec le Saint-Esprit. Et avant de quitter, il promet aux disciples d'envoyer le Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit passe sur scène par son apparition sur les disciples. C'est lui qui contrôle la situation. Et Jésus et son Père rentrent derrière la scène. Et le Saint-Esprit, et Dieu, et Jésus-Christ, ils étaient tous ensemble. Ce n'est pas parce qu'on est sur scène qu'on est plus important que ceux qui sont derrière la scène. Et ce n'est pas parce qu'on est derrière la scène qu'on est moins important que ceux qui sont sur scène. Parce que nous travaillons tous pour un but commun. Dans la Trinité, on trouve que les trois travaillent ensemble. Ils ont des fonctions différentes. Ils ont des fonctions différentes. Mais ils travaillent tous ensemble. Et c'est ça ce que Jésus nous demande. Nous pouvons être devant, derrière. Nous pouvons être à côté. Nous pouvons être bavards, silencieux. Mais nous travaillons tous pour un but commun. Il n'y a pas de plus grand. Il n'y a pas de moins, de plus petit. Il n'y a pas de plus fort, il n'y a pas de plus faible. Parce que tous contribuent à l'avancement de l'œuvre divine. L'unité est aussi possible si on est prêt à renoncer à ses droits. Jésus a renoncé sa gloire pour venir ici sur terre. Parce qu'après, dans les textes, il est en train de réclamer cette gloire. Remettez-moi, rêvez-moi de la gloire que j'avais. Il avait cette gloire. Mais pour accomplir sa mission, il a renoncé à cette gloire. C'était son droit. Et il était libre de dire non. Oui, mais il ne pouvait pas dire non, sinon il allait rompre cette unité-là. Pour garder l'unité, il a dit oui et il a renoncé à sa gloire. Pour venir ici, la gloire qu'il a repris après. Donc, il faut renoncer à ses droits pour avoir l'unité. L'unité est possible aussi s'il y a l'obéissance à la parole de Dieu. Jésus a rempli sa mission dans l'obéissance totale de la parole de son Père. La parole que nous avons, ce n'est pas notre parole. Jésus lui-même a dit, ce n'est pas sa parole. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de son Père. Et nous devons toujours rester dans l'obéissance de la parole de Dieu. Parce que si nous sommes dans la parole de Dieu, nous n'aurons pas de divergence. Parce que nous avons tous la même parole. L'unité est possible s'il y a le respect et la compréhension mutuelle. Si Jésus n'avait pas compris son Père, je ne pense pas qu'il aurait venu. Venir mourir, non, ça, je ne peux pas. Il a demandé même si le Père peut ôter cette coupe. Mais il a dit que ta volonté soit faite. Il ne pouvait pas. Donc, le respect et la compréhension. Et enfin, l'unité est possible s'il y a communication entre les membres. On ne peut pas être un si on ne communique pas. Même pas avec Dieu, parce que Dieu, lui, il veut communiquer avec nous. Les personnes qui ne se parlent pas ne peuvent pas prétendre être un. Et puis, si Si on ne se parle pas, on ne peut pas avoir un compromis. Raison pour laquelle, dans l'unité, il faut qu'il y ait la communication. C'est par la communication que nous allons résoudre des problèmes. C'est par la communication que nous aurons des compromis. C'est par la communication que nous allons aussi exprimer notre amour. On ne peut pas vivre l'unité isolée quelque part, dans sa chambre ou dans sa maison. On ne peut pas vivre l'unité si on est seulement isolé dans notre communauté. Parce que la prière de Jésus ne concerne pas que la communauté des marins, mais ça concerne toutes les communautés des croyants du monde. C'est pour dire que cette unité ne nous concerne pas seulement ici, mais c'est aussi avec les autres croyants du monde. Ça peut être ici en Europe, en Amérique, en Afrique, et partout où ils sont. Et même là où il y a la persécution. Dieu nous demande de vivre cette unité. Et il dit que c'est possible. C'est à nous de réfléchir et de se poser la question. Où en sommes-nous avec notre unité? Quelle est ma part? Parce que l'unité concerne chacun des membres. Ce n'est pas tel qui doit faire pour que nous soyons un. C'est moi qui dois faire pour que nous soyons un avec l'autre. Donc chacun doit jouer son rôle pour avoir cette unité. Parce que s'il y a un membre qui s'écarte, il y a rupture. Il faut que chaque membre sache là où il est. Il faut que chaque membre sache qu'il est concerné par cette unité que Dieu nous demande. Malgré notre diversité. Malgré notre différence. Et si réellement, nous suivons ce que je viens d'énumérer ici, ça ne vient pas de moi, je l'ai relevé de la Bible. Ce n'est pas moi qui ai inventé ces points. Et si vous êtes d'accord avec ces points, il serait possible de vivre l'unité dans notre Église aussi. Ce sera possible de vivre l'unité avec d'autres chrétiens du monde. Parce que nous suivons la même parole. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde et qu'il nous aide pour que nous puissions rester un. Comme Jésus a dit, lui et son Père, ils sont un. Merci, que Dieu vous bénisse.